À présent, je sais que je souffrais du contraste entre l'appétit intellectif, où aurait dû se manifester l'empire de la volonté, et l'appétit sensitif, sujet des humaines passions. En effet, actus appetitus, sensitivi in quantum habent, transmutationem, corporalem annexam, passiones dicuntur, non autem actus voluntatis. Et mon acte appétitif était précisément accompagné d'un tremblement de tout mon corps, d'une impulsion physique à crier et à m'agiter. Le docteur Angélique dit que les passions en soi ne sont pas mauvaises, sauf qu'on doit les modérer par la volonté guidée par l'âme rationnelle. Mais mon âme rationnelle était ce matin-là assoupie de fatigue. Et cette lassitude bridait l'appétit irascible qui se tourne vers le bien et le mal en tant que terme de conquête, mais pas l'appétit concupiscible qui se tourne vers le bien et le mal en tant qu'ils sont connus. Pour justifier mon irresponsable légèreté d'alors, je dirais aujourd'hui, avec les mots du docteur Angélique, que j'étais indubitablement pris d'amour, qui est passion et loi cosmique, car même la gravité des corps est amour naturel. Et par cette passion, j'étais naturellement séduit, car en cette passion, appetitus tendi in appetibile realiter consequendum, ut sit ibi finis motus. Partant naturellement, amor facid quod ipsae res quae amantur, amanti aliquo modo uniantur et amor est magis cognitivus quam cognitio. De fait, je voyais maintenant la jeune fille mieux que je ne l'avais vue la veille au soir, et je la comprenais intus et incute, parce qu'en elle, je me comprenais moi, et en moi, elle-même. Je me demande à présent si ce que j'éprouvais était l'amour d'amitié, où le semblable aime le semblable et ne veut que le bien d'autrui, ou amour de concupiscence, où l'on veut son propre bien, et l'incomplet ne veut que ce qui le complète. Et je crois qu'amour de concupiscence avait été celui de la nuit, où je voulais de la jeune fille quelque chose que je n'avais jamais eu, tandis que ce matin-là je ne voulais rien de la jeune fille, et je ne voulais que son bien, et je désirais qu'elle fût soustraite à la cruelle nécessité de se soumettre pour un peu de nourriture, et fût heureuse, et je ne voulais plus rien lui demander, mais uniquement continuer à penser à elle, et à la voir dans les brebis, dans les bœufs, dans les arbres, dans la lumière sereine qui saignait de bonheur l'enceinte de l'abbaye. À présent, je sais que la cause de l'amour est le bien, et ce qui est bien se définit par connaissance, et qu'on ne peut aimer ce qu'on a appris comme bien, tandis que la jeune fille, je l'avais apprise, oui, comme bien de l'appétit irascible, mais comme mal de la volonté. Mais alors, j'étais la proie d'une grande discordance dans les mille mouvements de mon âme, car ce que j'éprouvais était semblable à l'amour le plus saint, précisément comme le décrivent les docteurs. Il me procurait l'extase, où amant et aimé veulent la même chose, et par une mystérieuse illumination, je savais qu'en cet instant, où qu'elle fût, la jeune fille voulait cela même que moi je voulais. Et pour elle, j'éprouvais de la jalousie, mais pas la mauvaise condamnée par Paul dans la première aux Corinthiens, qui est principium contentionis et n'admet pas consortium in amato, mais celle dont parle Denis dans les Nomi Divini, raison pourquoi Dieu aussi est dit jaloux. Propter multum amorem quem habet ad existentia. Et moi j'aimais la jeune fille justement parce qu'elle existait, et j'étais heureux, pas envieux, qu'elle existât. J'étais jaloux de la façon dont, pour le docteur Angélique, la jalousie est motus in amatum, jalousie d'amitié qui pousse à s'opposer à tout ce qui nuit à l'aimer. Et moi, je ne rêvais en cet instant-là à rien d'autre qu'à délivrer la jeune fille du pouvoir de ceux qui en achetaient la chair en la souillant de leur passion néfaste. À présent, je sais, comme dit le docteur, que l'amour peut porter atteinte à l'aimer s'il est excessif. Et le mien était excessif. J'ai tenté d'expliquer ce que j'éprouvais alors. Je ne tente en rien de le justifier. Je parle de ce que furent mes coupables ardeurs de jeunesse. Elles étaient mauvaises, mais la vérité m'impose de dire que je les ai ressenties alors comme extrêmement bonnes. Et que cela enseigne ceux qui, comme moi, trébucheront dans les raies de la tentation. Aujourd'hui, vieillard, je saurai mille façons d'échapper à de telles séductions. Et je me demande à quel point je dois en être fier, puisque me voilà libéré des tentations du démon méridien, mais pas libéré de toutes. À telle enseigne que je me demande si ce que je suis en train de faire n'est pas coupable allégeance à la passion terrestre de la remémoration, sotte tentative d'échapper au flux du temps et à la mort. Jadis, je me sauvais presque par instinct miraculeux. La jeune fille m'apparaissait dans la nature et dans les œuvres humaines qui m'entouraient. Je cherchais donc, par une heureuse intuition de l'âme, à me plonger dans la contemplation détaillée de ses œuvres. J'observais le travail des vachers qui menaient les bœufs hors de l'étable, des porchers qui remplissaient la bauche des cochons, des bergers qui excitaient les chiens à réunir les brebis, des paysans qui apportaient épeautres et mille au moulin et en sortaient avec des sacs de bonne farine. Je m'absorbais dans la contemplation de la nature, en cherchant à oublier mes pensées et à ne regarder que les êtres tels qu'ils nous apparaissent, et à m'abîmer dans leur vision, joyeusement. Qu'il était beau le spectacle de la nature, non encore touché par la science, souvent perverse de l'homme. Je vis l'agneau, à qui on a donné ce nom, comme en reconnaissance de sa pureté et bonté. En effet, le nom Agnus dérive du fait que cet animal agnoscite reconnaît sa propre mère et en reconnaît la voix au milieu du troupeau, tandis que la mère, parmi tant d'agneaux de formes identiques et d'identiques bêlements, reconnaît toujours et uniquement son fils et le nourrit. Je vis le mouton appelé Ovis, qu'on dit ab oblationé, parce qu'il servait depuis les premiers temps au rite sacrificiel. Le mouton qui, à son habitude, au seuil de l'hiver, cherche l'herbe avec avidité et se remplit de fourrage avant que les paquages ne soient brûlés par le gel. Et les troupeaux étaient surveillés par les chiens, dont le nom vient de canor à cause de leur aboiement. Animal parfait au milieu des autres, avec des dons d'acuité supérieure, le chien reconnaît son propre maître. Et il est dressé à la chasse aux bêtes féroces dans les bois, à la garde des troupeaux contre les loups, il protège la maison et les petits de son maître. Et parfois, dans son rôle de défenseur, il trouve la mort. Le roi Garamante, qui avait été conduit en prison par ses ennemis, était retourné dans sa patrie grâce à une meute de 200 chiens qui se frayèrent un chemin au milieu des bataillons antagonistes. Le chien de Jason Lycien, après la mort de son maître, refusa de se nourrir jusqu'à mourir d'inanition. Celui du roi Lysimac se jeta sur le bûcher de son maître pour mourir avec lui. Le chien a le pouvoir de cicatriser les blessures en les léchant, et la langue de ses chiots peut guérir les lésions intestinales. De par sa nature, il a coutume d'utiliser deux fois la même nourriture après l'avoir vomi. Sobriété qui est symbole de perfection d'esprit, ainsi que le pouvoir de thaumaturge de sa langue est symbole de la purification des péchés, obtenue à travers la confession et la pénitence. Mais que le chien revienne à ce qu'il a vomi est aussi le signe que, après la confession, on revient au même péché qu'avant, et cette moralité me fut fort utile ce matin pour avertir mon cœur alors que j'admirais les merveilles de la nature. Cependant, mes pas me portaient à l'étable des bœufs qui étaient en train de sortir en grand nombre guidés par leur bouvier. Ils me semblèrent aussitôt, tels qu'ils étaient et sont, des symboles d'amitié et de bonté, car chaque bœuf, sur son travail, se tourne pour chercher son compagnon de charrue, si par hasard celui-là est pour leur absent, et il s'adresse à lui avec d'affectueux beuglements. Les bœufs, obéissant, apprennent à regagner tout seuls l'étable quand il vient à pleuvoir, et quand ils s'abritent à leur râtelier, ils allongent continuellement la tête pour regarder dehors si le mauvais temps a cessé, car ils aspirent à retourner au travail. Et avec les bœufs sortaient aussi des étables les genevaux qui, femelles et mâles, tirent leur nom du mot viriditas, ou même de virgo, car à cet âge ils sont encore frais, jeunes et chastes. Et j'avais fait, et faisais mal, me dis-je, de voir dans leur ondoiement gracieux une image de la jeune fille sans chasteté.